Chapitre 30. De pauvres petites vagues. En fin de nuit, alors qu'elle s'est endormie sur le bord du lit, Julie sent soudain la petite main de son fils bouger violemment, par saccades, dans un mouvement désordonné. Ce n'est pas seulement sa main qui bouge, mais tout son bras, et l'autre aussi, et puis les jambes. Elle sonne. Elle se doute bien que ce sont des convulsions, ce que confirme l'infirmière qui vient répondre, et qui réapparaît quelques instants plus tard avec un double traitement pour tenter de les arrêter. Julie le sait, les convulsions sont le signe d'un cerveau en souffrance, premier organe touché par un arrêt cardiaque, comme le disait le médecin. Ces derniers petits morceaux d'espoir se détachent les uns après les autres, comme une banquise qui se morcelle et qui part fondre dans la mer devenue trop chaude. Inéluctable éparpillement de ce qu'elle pensait solide. De croire peut déplacer des montagnes, mais parfois cela ne suffit pas. Les montagnes s'écroulent et on est en dessous. Quelques heures plus tard, quand Julie revient de sa minuscule pause où elle est allée se rafraîchir, prendre un peu l'air, essayer de respirer, Ludovic est bardé de fils qui partent de sa tête et convergent vers une machine dont les aiguilles sont censées imprimer le reflet de son activité cérébrale. La femme qui fait le test l'appelle très fort, par son prénom, fait des bruits violents. Et Julie scrute ses aiguilles qui bougent à peine. Elle aimerait un tremblement de terre, un volcan en éruption, un tsunami sur le papier. Pas de pauvres petites vagues qui viennent s'échouer là comme sur la plage déserte d'une mer calme. C'est pourtant le cas. C'est fini. C'est fini. Julie le sait. Elle ne retrouvera plus jamais son Lulu. Le miracle ne s'est pas produit. Elle a eu beau lever les bras très haut. D'ailleurs, quels bras ? Elle n'a même plus de bras, plus de jambes, plus de cœur, plus rien. Julie est un trou noir. Elle donnerait sa vie pour sauver celle de son fils, et elle ne peut pas. Personne n'en veut. Au contraire, elle l'entend d'ici. On va même lui demander de s'y raccrocher. Il va quand même falloir revenir du front, en malheureuse survivante, et se construire une autre vie. Si elle y arrive. Si elle y arrive. L'échange de regards silencieux avec le docteur Lagarde suffit à confirmer que c'est la fin. Elle sait qu'il n'y a pas lieu de s'acharner. Elle sait surtout qu'il s'est réveillé pour lui sourire, en guise de revoir, et qu'il n'a pas envie d'être retenu ici. Laissez-moi. Romain a attendu que le médecin et l'infirmière s'éloignent pour rejoindre Ludovic et sa maman. Il s'approche d'elle et la prend simplement dans les bras, sans un mot, puis la regarde longuement, les yeux un peu plus brillants que d'habitude. Le silence a cette vertu de laisser parler le regard, miroir de l'âme. On entend mieux les profondeurs quand on se tait. Julie a entendu. Elle laisse éclater tout le chagrin. Celui qui a remplacé les bras, les jambes, le cœur et tout le reste. Elle pleure pendant plus d'un quart d'heure. L'averse d'orage qui tombe, qui inonde, et dont on se demande si elle va finir un jour. Romain ne dit rien. Dire quoi ? Il la maintient, la contient. Elle pleure tellement qu'elle peine à respirer. Son nez plein n'y arrive plus. C'est la bouche qui inspire, dans des hoquets incontrôlables. Et puis ses jambes ne la portent plus. Le chagrin ne porte rien. Romain l'a senti, il l'allonge sur le lit adjacent et lui caresse les cheveux. Les infirmières à leur bureau détestent ce moment. Celui où les parents prennent conscience que c'est fini, même quand le cœur de leur enfant bat encore. Le moment où ils laissent éclater leur détresse sans retenue, parce qu'elle est insurmontable. Elles savent que ce moment ne dure jamais trop longtemps. Le corps finit par se calmer, même si le cœur est toujours à vif. Coupé en deux. Non, ce moment où les cris s'entendent dans tout le service, elles ne s'y habitueront jamais. Jamais. Émilie, l'infirmière, est venue apporter un petit gant de toilette avec un peu d'eau fraîche et le passe sur le visage de Julie, dont les cris ont laissé place au silence, encore ponctué de quelques spasmes. Elle a la tête qui tourne. L'infirmière revient avec une tisane sucrée. Depuis hier, Julie n'a rien mangé, peut-être même rien bu. elle n'a pensé qu'à Lulu. C'est le médecin qui la réveille en entrant dans la chambre un peu plus tard. Elle ne sait pas combien de temps elle a dormi. Romain n'est plus là, le soleil est moins fort dehors. Il lui tient l'avant-bras. Vous étiez là. Vous avez vu que l'électroencéphalogramme n'est pas bon, madame le maire. Il n'est pas totalement plat, mais il n'est pas bon. Si l'on considère l'état clinique de Ludovic avant cet arrêt cardiaque, il ne nous reste plus beaucoup d'espoir. Je veux que vous le laissiez partir. Il me l'a dit quand il s'est réveillé pour me sourire. Il a dit « Laissez-moi ». Nous ne savons pas le temps que cela prendra. Sous respirateur, il est stable. Il peut s'en aller en quelques heures ou en quelques jours, peut-être plus. Et si nous débranchons le respirateur, il se passera quoi? Il partira rapidement, il est dépendant de cette machine. Il en souffrirait? Non, son cœur s'arrêterait de battre, simplement. Mais c'est délicat, ce serait un arrêt de soins volontaire. La réanimation aussi était volontaire, et ça ne l'a pas sauvé. Vous n'auriez pas fait ce massage cardiaque et cette intubation, il ne serait déjà plus là. C'est vrai, mais c'est délicat pour nous. Et pour moi? Vous croyez que ce n'est pas délicat? Vous croyez que j'ai envie de le débrancher, ce respirateur? Le médecin ne dit rien. Elle n'a pas tort. Il sait qu'il ne sert à rien de s'acharner, mais cela est tellement difficile. Ludovic est relié à la vie comme un astronaute dans l'espace, relié à son vaisseau par une simple corde. On coupe la corde et il s'en va dans la pesanteur. Difficile de couper la corde. Difficile. Je vais aller prévenir ma famille, conclut Julie. Prenez le temps qu'il faut.